d'économie.
Le conseil spécial du chef de l'État pour la bonne gouvernance en RDC et la Chambre de commerce américaine ont échangé ce lundi sur l'assainissement du climat des affaires. La Chambre américaine s'est engagée à accompagner la RDC. Dossier détournement de fonds des agents et fonctionnaires de l'État, nous en parlons encore ce soir. Le syndicat de l'administration publique appelé à s'impliquer pour aider les gouvernements à démanteler tous les réseaux mafieux. Nous serons à Uvira où le pont Kanvivira s'est effondré. Conséquence, depuis la destruction de ce pont en avril dernier, les recettes ont baissé de 50% en l'espace de 2 mois. Bonsoir mesdames et messieurs, nous ouvrons ce magazine par Kinshasa, l'assainissement du climat des affaires au menu d'un échange entre la Chambre de commerce américaine et les conseillers spéciaux du chef de l'État pour la bonne gouvernance en RDC. Le professeur Luzolo Bambi a expliqué ce lundi aux hommes d'affaires et banquiers ainsi qu'à l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa sa mission en matière de la lutte contre la corruption, les blanchiments des capitaux et les financements des terrorismes. Les interlocuteurs du conseil spécial se sont engagés à accompagner ces actions pour améliorer le climat des affaires en RDC. Jeff Ngoy.
Le conseil spécial a besoin d'un appui du monde des affaires, notamment le renforcement des capacités d'une centaine de ses personnels afin de mener à bien ses actions. Mais le président de la Chambre de commerce américaine, Christopher DeHappy, fait savoir ses attentes.
13 sociétés américaines qui ont été ici plus de 2 fois comme investisseurs potentiels initient le processus de s'inscrire comme société au Congo. Pourquoi les 13 n'ont pas ouvert des bureaux maintenant? C'est parce qu'ils ont peur justement de cette classification du climat des affaires. Donc nous attendons un vrai accompagnement après les plaintes, un système judiciaire réel, juste et que le système de dénonciation ne soit pas accompagné des représailles.
Y a-t-il eu des améliorations considérables dans le monde des affaires depuis 2006? Comment appréciait-on l'action de la CNRF à la Chambre de commerce, Christopher?
On n'est pas encore là, mais il y a quand même des améliorations. Nous sommes partis peut-être de 10 kg de problèmes à presque 7,5. Donc il y a encore du chemin à faire. Le CNRF doit être sorti de la Banque centrale. Elle doit être un organe totalement indépendant.
Les actions amenées par Luzolo Bambi devront se traduire par des sanctions et le changement des mentalités. À ce jour, le conseiller spécial continue d'enregistrer des milliers de plaintes en matière de détournement des fonds et corruption. Dans 1 mois et demi, ces actions seront jugées.
En rapport avec les détournements de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, le ministre d'État en charge du budget a réuni le samedi dernier tous les syndicats de l'administration publique pour que ce dernier s'implique et aide le gouvernement à démanteler tous les réseaux mafieux. Pour ce faire, des commissions composées des syndicalistes sous la supervision des inspecteurs des finances doivent être constituées pour descendre dans les provinces. 3 secteurs sont dans le premier temps concernés, l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que la santé qui emploie le gros des agents et fonctionnaires de l'État. Michel Bongongo, ministre d'État en charge du budget, s'exprime au micro d'Innocent Olinga.
Le gouvernement fait-il résolu de s'engager dans le démantèlement des 10 réseaux en élargissant la collaboration à tous les syndicats des agents et fonctionnaires de l'État dans l'objectif d'obtenir des résultats plus substantiels et cela dans les meilleurs délais. La séance de ce jour est la manifestation de cette volonté du gouvernement de lancer à tous les syndicats sous la supervision des inspecteurs des finances. Un vibrant et patriotique appel à l'accompagner dans cette vaste campagne de contrôle qu'il a, du reste, déjà commencé dans les provinces de l'Équateur et du Maniema.
Rendons-nous en province orientale à Kisangani, le projet dédié d'intégration budgétaire portant budget provincial de la province orientale pour l'exercice 2015 a été jugé non recevable le vendredi dernier à l'Assemblée provinciale. C'était au cours de la plénière consacrée à la présentation de cet édit par les vice-gouverneurs de province accompagnés des membres du gouvernement provincial. Les explications avec André Kitenge.
Les recettes intégrées du budget général telles que présentées par le vice-gouverneur sont évaluées à plus de 370 milliards de francs congolais. Un débat général s'est ouvert avec sept groupes parlementaires qui se sont exprimés pour apporter leurs observations. Pour certains, ce projet contient beaucoup d'irrégularités. C'est le cas du député Benjamin Pirote et Ludel Ituri.
Il s'est relevé des failles et des incohérences impossibles. Tenant compte de nos réalités, des réalités de nos bases respectives, voyant les chiffres qui sont coulés dans les budgets. Il appartenait à l'exécutif de donner des éclaircissements quant à ces choses non faites. Et le gouvernement fait fi de toutes les recommandations de sept groupes parlementaires.
Réagissant à ce rejet, le vice-gouverneur de province se dit étonné. Il estime qu'il y a crise de confiance entre les deux institutions provinciales. Pascal Mombi Opana.
Vous savez, il s'agit d'un projet dédié d'intégration budgétaire. Donc ça signifie qu'on intègre les budgets qui nous ont été transmis par des entités territoriales décentralisé. Malheureusement, nous n'avons pas été compris par les députés provinciaux. Donc, ça n'a aucun impact sur le plan du processus du vote du budget de l'État, mais peut-être l'impact sur le plan politique, tout simplement. Donc, ça montre réellement qu'il y a une certaine crise de confiance entre les deux institutions.
Kisangani, André Kitenge, Radio Okapi.
Retour à Kinshasa, près de 200 agents de l'ex-Cititrain étaient encore ce matin devant les installations du dépôt de la 18e rue limitée. Ils disent ne pas comprendre que 4 mois après la fin du travail de la commission de liquidation, le gouvernement n'ait toujours pas pensé à leur verser leurs indemnités de fin de service. Daniel Tambinzoni les a rencontrés et voici son reportage.
Ils étaient pour la plupart des hommes visiblement arrivés à bout de patience, avec des rameaux placés sur les portails à l'entrée de la concession de la 18e rue limitée, d'autres rameaux à la main et attachés autour de la tête, ils chantaient pour l'argent. Le président de la délégation syndicale dit qu'il n'est pas question de désespérer et son message à l'autorité.
Nous demandons que le gouvernement qui nous a mis en chômage forcé puisse nous payer nos indemnités de sortie conformément à la constitution de la République et aux lois régissant la République démocratique du Congo en matière de travail. En termes d'indemnité, l'État nous doit près de 5 500 000 dollars américains pour les 26 ans de services rendus à la nation congolaise.
Mais à la question de savoir où le gouvernement trouvera-t-il de l'argent pour payer les indemnités, Bernadette Nyema ne manque pas de mots.
Qui dit liquidation, c'est l'évaluation du patrimoine de cette entreprise et le vente. On évalue le patrimoine, on vend le patrimoine, on voit le prix de la vente et on paye aux travailleurs. Mais le patrimoine Cititrain a été évalué à plus ou moins, les deux concessions totalisent au moins 10 millions. Si nous prenons d'autres choses, même la dette intérieure que l'État a voulu nous payer, qui est de 4 millions quelque chose, donc tout au plus le patrimoine de Cititrain totalise près ou moins 13 millions de dollars. 13 millions de dollars, moins 5 millions 500, l'État restera avec une bagatelle somme de 7 millions 500 qui va encaisser au trésor public pour faire d'autres chantiers.
Rappelons que suite à des difficultés d'exploitation, le Premier ministre avait pris un décret pour liquider Cititrain en 2014. La commission instituée pour faire ce travail en février 2015 avait fini sa mission après 45 jours et transmis le rapport au ministre de tutelle, le ministre du Transport, mais dès lors, aucune suite ne leur a été communiquée.
Écho d'économie. Au Kasaï occidental, 556 000 dollars, c'est le coût total des travaux du pont jeté sous la rivière Luboudi en territoire d'Ilebo. Cet ouvrage inauguré les week-ends derniers par le gouverneur de province est d'une importance capitale dans la mesure où il favorise le trafic routier entre Kinshasa et le Grand Kasaï. Les travaux de sa construction ont duré 10 mois. D'autres explications avec André Kambala Mujanaï.
Ce pont est situé dans le secteur de Basongo, 35 km de la ville portuaire d'Ilebo. Il relie le territoire d'Ilebo à celui d'Idiofa dans le Bandundu. Il remplace l'ancien qui s'était complètement affaissé. Les travaux de sa construction ont été exécutés durant 10 mois par les ingénieurs de l'office de route Kasaï Occidental. La fiche technique indique qu'il s'étend sur 30 mètres de longueur et 4 de largeur et que si les normes de transport sont respectées, ce pont a une espérance de vie de 50 ans. Autre indication, c'est le coût global de travaux qui s'élève à 556 000 dollars américains. Fonds qui proviennent du FONER, Fonds d'entretien routier. L'inauguration du pont Louboudi relance le trafic routier aux arrêts depuis près d'une année entre Kinshasa et le Grand Kasaï. En conséquence, les marchés de Kinshasa seront inondés de produits vivriers. Ceux du Grand Kasaï connaîtront un afflux de produits manufacturés, ce qui entraînera la baisse des prix de part et d'autre. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
Terminons par le Sud Kivu, le chef de la DPMR, Direction provinciale des mobilisations et encadrement des recettes, Centre synthétique d'Uvira, plaide pour la réhabilitation du pont effondré des camps Vivira dans la cité d'Uvira. Selon cette source, depuis la destruction de ce pont en avril dernier, les recettes ont baissé de 50% en l'espace de 2 mois. Impossible donc de renflouer les recettes des entités administratives déconcentrées de la province. Autre conséquence, la plupart des importateurs de produits pétroliers ont du mal à faire traverser leurs camions-citernes par la route de déviation qui passe par la rivière Canvivir en aval du pont effondré. On écoute le plaidoyer de Jacqueline Mapatano au micro de Fiston Ngoma.
Beaucoup d'opérateurs qui nous amenaient beaucoup de recettes, c'était les importateurs de produits pétroliers. Ils sont en première position, ceux-là. Et pour ceux-là, qui passent par le Burundi pour amener leurs camions, citernes, ils ont eu beaucoup de problèmes. Quand les ponts s'est effondré, ils ne sont plus chauds à importer comme ils le faisaient avant, que les routes ne sont plus viables depuis qu'on a signé le protocole d'accord. La convention, c'était de payer 20 francs par litre vendu à la pompe. Nous avons fait beaucoup de négociations avec eux. Ils ont accepté de commencer à payer 300 dollars par camion importé. Depuis que le pont s'est effondré, vous savez que les citernes, ce sont des poids lourds, ils supportent suffisamment de poids. Il y a certains qui ne sont pas à mesure d'affronter cette déviation. À l'heure où je vous parle, il y a même un camion qui s'est embourbé là-bas, il est dans la rivière. Il est bloqué là-bas, il ne sait pas quitter la rivière. Et il serait mieux que le problème du pont soit résolu. Et là, ça pouvait être un grand avantage pour les AD provinces parce que beaucoup de commerçants pourraient peut-être augmenter la fréquence des importations des produits pétroliers.
C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée en compagnie des Radio Capi.